un hommage, etc. quoi. Il apparaît pas tellement en fait dans cette histoire-là.
Donc, sur la sociologie,
alors sur la sociologie des Juifs, en fait, on sait vraiment pas grand-chose, et d'ailleurs notamment là où on sait encore moins de choses, c'est sur le premier 20e siècle. Donc, mais je suis censée regarder ça cet été pour un article de dictionnaire. Mais sur le 19e, on sait un peu, mais je pense qu'il est intéressant aussi, c'est une grosse partie de mes interrogations. Donc, vous avez compris, c'est de regarder en fait les justifications rhétoriques du tribunal et essayer de le confronter quelque part avec ses pratiques. Donc dans les justifications rhétoriques, il y a le côté expéditif, il y a le côté équitable, ça par cas, informel, tout ça, et il y a la notion de proximité avec les justiciables. Donc sachant qu'on peut la nuancer de au moins deux façons, la notion de proximité, d'abord en disant que de toute façon, en fait, on s'en fout de la sociologie des juges, parce que les justiciables sont quand même assez peu en contact avec les juges dans cette histoire-là. C'est-à-dire que d'abord, ils ont des avocats, systématiquement, ils sont des avocats spécialisés, donc ça serait intéressant aussi de regarder la sociologie de ces avocats-là. Donc c'est pas les parties qui parlent, c'est les agréés, et qu'ensuite c'est pas toujours les juges qui réagissent en face, c'est souvent ces arbitres extérieurs à qui on renvoie les affaires qui nécessitent une instruction. C'est-à-dire qu'en gros les juges du nom d'affaires, ils ont pas le temps quand ils font interroger des témoins, compulser des correspondances et tout. En fait, paradoxalement, les seuls cas où ils le font, c'est quand c'est un tribunal de province ou d'étranger qui leur envoie une commission rogatoire, et là il faut que ce soit le juge qui fasse l'interrogatoire, la compulsation des comptes et tout. Mais sinon, dans certaines affaires très importantes, en fait, je pense qu'ils le font eux-mêmes, mais ils renvoient. Donc, il y a la sociologie des juges et il y a la sociologie des arbitres, en fait. Donc, je suis en train d'essayer de regarder un peu les arbitres, c'est beaucoup plus compliqué, il y en a des très nombreux, on ne les trouve pas forcément, mais pour me faire juste une toute petite idée, parce qu'en gros, il y a trois sortes très différentes d'arbitres, et il y a des gens qui en font quasiment profession, donc ils peuvent être des experts en comptabilité, en architecture, ou juste des gens qui passaient par là et qui arbitrent toutes les affaires pour le tribunal. Il y a des gens bien réputés, quel que soit ce que ça veut dire, dans leur commerce, à qui on renvoie l'affaire pour la concilier bénévolement. Et il y a les chambres syndicales qui arrivent dans l'histoire après et qui m'intéressent beaucoup. Alors donc les juges, du coup, ils sont pas très très... En fait, c'est pas des types qui directement concilient les parties sur la base de connaissances personnelles. Ça change pas mal au cours du siècle, mais en gros on a deux types de gens, quoi, ce que j'ai retrouvé. On a le fait que ce soit un premier stade dans une carrière institutionnelle, et là c'est carrément en fait le digital, enfin il parle du stage à l'époque, c'est la fonction très pénible, c'est plusieurs jours par semaine, des hommes d'affaires, etc. En plus on commence par les faillites, ce qui est assez drôle par rapport à la rhétorique du tribunal aujourd'hui, c'est les faillites, c'est là où on met les petits suppléants qui débutent. C'est sympa pour les faillis. On commence par être présent aux audiences, à écouter, délibérer les autres, etc. Puis on rentre, et en gros, il y a des gens qui font ça 2 ou 4 ans, et qui après, soit sont juste égouttés de la vie, mais soit on en retrouve un certain nombre à la Chambre de commerce, au Conseil municipal, à la Banque de France. Et donc, notamment, il y a une période, surtout dans la première moitié du siècle, où c'est le jeune banquier prometteur qui va faire ses classes un peu là, et après, il est mieux considéré à la fois dans la banque et les institutions. Ça disparaît petit à petit, pour autant que j'ai trouvé. Et il y a un petit amendement à ça, qui est une période qui serait chouette de regarder plus près, mais je vais jamais avoir le temps. Juste quand on commence à mettre en application le nouveau code de commerce, et qu'en plus il y a une grave crise économique, donc vers 1810-1811, il y a élection, mais bon, c'est tellement des élections que... Il y a plein de gens du conseil de régence de la Banque de France qui débarquent au tribunal de commerce. Donc alors qu'habituellement c'est plutôt un poste de début de carrière et tout. Donc il y a quand même l'idée de quelqu'un, je pense, comme quoi, où là il faut mettre de l'ordre là-dedans, ça va pas. C'est une période aussi où il y a un peu des gens du conseil régent par exemple qui font faillite, donc il se passe des trucs. Mais donc ça c'est vraiment un moment ponctuel qui serait à regarder, où manifestement l'institution est considérée tellement importante que des gens qui sont vraiment au sommet du sommet y vont. Donc sinon, pendant le reste du siècle, la sociologie générale, c'est plus du César Birotto plus, hein, je dirais. C'est-à-dire soit César Birotto, c'est supposé un parfumeur, soit quelqu'un qui vient d'un secteur spécialisé, mais qui est quand même parmi les plus fortunés, ceux qui ont le mieux réussi et qui obtient une forme de notabilité locale comme ça. Soit le cran un peu au-dessus, c'est-à-dire avec des activités plus internationales, parfois à la frontière de la banque. Donc le cran au-dessus, notamment parce que moins spécialisé, c'est-à-dire des négociants en point qui négocient tout ce qui passe selon les moments, donc ils peuvent être à la frontière des affaires de bourse, etc. Donc c'est soit le sommet du commerce spécialisé, soit plutôt la moitié, soit jeune, soit basse du grand négoce en fait. Du coup, c'est évidemment pas le petit commerçant du coin. Donc aujourd'hui, en fait, il y a énormément de cadres de banques au tribunal du commerce et ils entretiennent un mythe comme quoi avant c'était des bouchers. Et le avant n'est jamais qualifié. Et donc il y a une hypothèse possible comme quoi dans la première moitié du XXe siècle, il y aurait eu quand même plus de gens issus du petit moyen commerce qui seraient rentrés et qui seraient à vérifier. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une minorité de restaurateurs, de gens du bâtiment, etc., qui existent. Donc est-ce que ça a toujours existé comme minorité ou est-ce qu'il y a eu vraiment un moment, mais qui serait au XXe siècle alors, où ces gens-là avaient un poids important. Mais en tout cas, bon, au XVIIIe siècle, c'est les sous-corps de Paris, donc c'est quand même le top du top, et au XIXe siècle, c'est un peu moins, mais pas beaucoup, quoi. Donc ce qui fait que c'est quand même plus les arbitres que eux qui sont en contact avec le type qui écrivait pas ses comptes et qui se rappelle plus ce qu'il a fait, etc. Mais les juges aussi. Donc c'est clairement pas jugé de type de pratiques qui sont les leurs dans ces cas-là. En revanche, quand il y a des affaires de bourse, par exemple, là, c'est le tribunal le plus expert et c'est assez intéressant d'ailleurs dans la jurisprudence le poids du tribunal de commerce de Paris dans l'évolution des jugements sur la bourse, il est important. Et là, on voit qu'on a des juges qui sont vraiment experts personnellement, a priori, ils fréquentent vraiment l'institution. En revanche, quand c'est des petits impayés entre des petits commerçants, ils sont pas plus proches des parties que si c'était des juges juristes, a priori.
Je me disais dans les usages possibles, c'est toujours utile de penser les séparés formels, informels, de réputation, combien de ça. Je me demandais dans quelle mesure il n'y a pas une boucle à faire sur les usages sociaux de ce procès, pour la réputation, comme les procès de qualité, dans les milieux sociaux assez courts. Je pense notamment aux États-Unis, les systèmes d'agence, des plus fortes, qui justement ont prêté une attention forte à l'ensemble de ces données publiques des tribunaux pour qualifier la réputation des commerçants en Ile-de-France. Mmh. Donc peut-être qu'à Paris, pour savoir avec qui on va commercer, à Marseille ou je ne sais pas trop où, on connaît mal, peut-être une des façons de se renseigner, de prendre contact avec les tribunaux de commerce, et pour savoir la réputation en distance. L'autre chose, il y a dans le droit et informel où le droit c'est pas que les procès quoi. Et je pense sur la nouvelle histoire de Lens, un point important à voir, c'est que même si ça va pas en procès, le droit performe normalement les pratiques, et c'est pas que il a performé les pratiques, peut-être que ça va pas au procès, quoi. Le fait que le contrat soit acté, que les gens soient tenus par le fait qu'on dépose une carte d'identité, le droit s'impose comme référent à la pratique en dehors même du procès, simplement par la façon dont la pratique s'échange, donc les interactions savent qu'il y a un tiers, quoi, qui plane, donc dans l'usage que,